Science et santé, avec la clé des écritures de Marie Baker Eddy. Chapitre 1. La prière. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Christ Jésus. La prière qui réforme les pécheurs et guérit les malades est une foi absolue dans le fait que tout est possible à Dieu. Une compréhension spirituelle de Dieu, un amour détaché de soi-même. Sans m'arrêter à ce que d'autres peuvent dire ou penser à ce sujet, je parle par expérience. La prière, la vigilance et le travail, unis à l'immolation de soi, sont les moyens accordés par la grâce de Dieu pour l'accomplissement de tout ce qui a été fait avec succès pour la christianisation et la santé du genre humain. Les pensées inexprimées ne sont pas inconnues à l'entendement divin. Le désir, c'est la prière, et nous ne pouvons rien perdre en confiant nos désirs à Dieu afin qu'ils soient façonnés et élevés avant de prendre forme en parole et en action. Quels sont les mobiles de notre prière ? Prions-nous pour devenir meilleurs, ou pour faire du bien à ceux qui nous entendent, pour instruire l'infini, ou pour être entendus des hommes. Est-ce que la prière nous fait du bien? Oui, le désir qui s'élance, affamé de justice, est béni de notre Père et ne revient pas à nous sans effet. Dieu n'est pas poussé par l'expression des louanges à faire plus qu'il n'a déjà fait. Et l'infini ne peut faire moins que de prodiguer tout bien, puisqu'il est sagesse et amour immuable. Nous pouvons faire davantage pour nous-mêmes par d'humbles et ferventes supplications, mais le tout-aimant ne les exauce pas simplement en raison du culte rendu par les lèvres, car il connaît déjà tout. La prière ne saurait changer la science de l'être, mais elle tend à nous mettre en harmonie avec cette science. La bonté atteint à la démonstration de la vérité. Il ne suffit pas de demander à Dieu de nous sauver. La simple habitude de plaider sa cause auprès de l'entendement divin, comme on le fait avec un être humain, perpétue la croyance que Dieu est humainement circonscrit, erreur qui entrave le progrès spirituel. Dieu est amour. Pouvons-nous lui demander d'être davantage? Dieu est intelligence. Pouvons-nous informer l'entendement infini de quelque chose qu'il ne comprenne déjà? Nous attendons-nous à changer la perfection? Supplierons-nous la fontaine jaillissante qui nous verse déjà plus que nous n'acceptons de nous donner davantage? Le désir inexprimé nous rapproche réellement de la source de toute existence et de toute félicité. Demander à Dieu d'être Dieu est une vaine redite. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et celui qui est immuablement juste fait toujours ce qui est juste sans qu'il soit nécessaire de lui rappeler son ministère. La sagesse de l'homme n'est pas suffisante pour qu'il se permette de donner des conseils à Dieu. Qui se placerait devant le tableau noir et prierait le principe des mathématiques de résoudre le problème? La règle est déjà établie, et notre tâche est de trouver la solution. Demanderons-nous au principe divin de toute bonté de faire son propre travail? Son travail est fait. Et nous n'avons qu'à nous servir de la règle de Dieu pour recevoir sa bénédiction qui nous met à même de travailler à notre propre salut. L'être divin doit être reflété par l'homme, autrement l'homme n'est pas l'image et la ressemblance de celui qui est patient, tendre et vrai, le tout aimable. Mais comprendre Dieu est l'œuvre de l'éternité et exige une consécration absolue de la pensée, de l'énergie et du désir. Comme nos conceptions de la divinité sont creuses, nous admettons en théorie que Dieu est bon, omnipotent, omniprésent, infini, et puis nous essayons de renseigner cet entendement infini. Nous implorons un pardon immérité et une prodigalité de bienfaits. Sommes-nous réellement reconnaissants pour le bien déjà reçu? Alors nous mettrons à profit les bienfaits qui nous ont été dispensés et serons ainsi qualifiés pour en recevoir davantage. La gratitude est beaucoup plus qu'une expression verbale de remerciement. Les actes expriment plus de gratitude que les paroles. Si nous manquons de reconnaissance pour la vie, la vérité et l'amour, et que nous rendions néanmoins grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, nous manquons de sincérité et encourons le blâme sévère que notre maître prononce contre les hypocrites. En pareil cas, la seule prière acceptable est de mettre le doigt sur les lèvres et de nous rappeler les bienfaits reçus. Tant que le cœur est loin de la vérité et de l'amour divin, nous ne pouvons dissimuler l'ingratitude de vie stérile. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la prière du désir fervent de croître en grâce, prière exprimée par la patience, l'humilité, l'amour et les bonnes œuvres. Gardez les commandements de notre Maître et suivre son exemple. Voilà notre vraie dette envers lui et la seule preuve valable de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait. Le culte extérieur ne suffit pas en soi à exprimer la reconnaissance sincère venant du cœur, puisqu'il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Faire des efforts continuels pour être toujours bon, c'est prier sans cesse. Les motifs de cette prière sont révélés par les bienfaits qu'ils apportent. Bienfaits qui, même s'ils ne sont pas reconnus de vive voix, attestent que nous sommes dignes d'être participants de l'amour. Simplement demander que nous puissions aimer Dieu ne nous le fera jamais aimer. Mais le désir ardent d'être meilleur et plus sain, exprimé par une vigilance quotidienne et par des efforts pour assimiler davantage le caractère divin, nous formera et nous façonnera à nouveau jusqu'à ce que nous nous éveillions à sa ressemblance. Nous arrivons à la science du christianisme par la démonstration de la nature divine. Mais dans ce monde pervers, la bonté sera un sujet de calomnie, et la patience doit entraîner l'expérience. La prière faite à haute voix ne peut jamais accomplir les œuvres de la compréhension spirituelle qui régénère, mais la prière silencieuse, la vigilance et la pieuse obéissance nous mettent à même de suivre l'exemple de Jésus. Les longues prières, la superstition et les credos coupent les ailes puissantes de l'amour et revêtent la religion de forme humaine. Tout ce qui matérialise le culte retarde la croissance spirituelle de l'homme et l'empêche de démontrer son pouvoir sur l'erreur. Le chagrin d'avoir fait le mal n'est qu'un seul pas vers la réforme et c'est le pas le plus facile. Celui qu'il faut faire ensuite, le grand pas qu'exige la sagesse, c'est celui qui met notre sincérité à l'épreuve, savoir la réforme. À cette fin, il nous faut faire face aux circonstances. La tentation nous engage à renouveler l'offense et la souffrance qui s'ensuit est la conséquence de ce que nous avons fait. Il en sera toujours ainsi, jusqu'à ce que nous apprenions que la loi de la justice ne fait pas d'escompte et qu'il nous faut payer jusqu'au dernier cadran. On se servira pour vous de la mesure avec laquelle vous mesurez, et elle sera pleine et débordante. Les saints et les pécheurs reçoivent leur pleine rétribution, mais pas toujours dans ce monde. Les disciples de Christ burent sa coupe. L'ingratitude et la persécution la remplirent jusqu'au bord. Mais Dieu verse les richesses de son amour dans la compréhension et les affections, nous donnant la force selon les besoins de chaque jour. Les pécheurs sont florissants comme un arbre verdoyant. Mais en regardant plus loin, le psalmiste put voir leur fin, la destruction du péché par la souffrance. On ne doit pas se servir de la prière comme d'un confessionnal pour annuler le péché. Une telle erreur entraverait la vraie religion. Le péché n'est pardonné que lorsqu'il est détruit par le Christ, la vérité et la vie. Si la prière entretient la croyance que le péché est annulé et que l'homme est rendu meilleur par le seul fait de prier, la prière est un mal. Celui qui continue à pécher parce qu'il se croit pardonné n'en devient que plus pervers. Un apôtre dit que le Fils de Dieu, Christ, est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous devrions suivre notre divin exemplaire et chercher à détruire toutes les œuvres du mal, y compris l'erreur et la maladie. Nous ne pouvons échapper à la peine due au péché. Les Écritures disent que si nous renions le Christ, lui aussi nous reniera. L'amour divin corrige et gouverne l'homme. Les hommes peuvent pardonner, mais ce principe divin seul réforme le pécheur. Dieu n'est pas séparé de la sagesse qu'il confère. Il nous faut faire valoir les talents qu'il donne. Implorer son pardon pour avoir mal fait notre travail ou pour avoir négligé de le faire implique la vaine supposition que nous n'avons qu'à demander pardon et qu'ensuite nous serons libres de renouveler l'offense. Causer la souffrance comme conséquence du péché, c'est le moyen de détruire le péché. Tout prétendu plaisir dans le péché entraînera plus que son équivalent de douleur, jusqu'à ce que la croyance à la vie matérielle et au péché soit détruite. Pour atteindre au ciel l'harmonie de l'être, il nous faut comprendre le principe divin de l'être. Dieu est amour. Impossible d'en demander davantage, de regarder plus haut, d'aller plus loin. Supposer que Dieu pardonne ou punit le péché selon que l'on recherche ou non sa clémence, c'est méconnaître l'amour et utiliser la prière comme soupape de sûreté pour échapper aux conséquences du péché. Jésus découvrait et réprouvait le péché avant de le chasser. Il dit d'une femme malade que Satan l'avait liée, et il dit à Pierre, « Tu mets en scandale !» Il vint enseigner et démontrer aux hommes comment détruire le péché, la maladie et la mort. Il dit de l'arbre stérile, « Il est coupé !» Nombre de personnes croient qu'un certain magistrat qui vivait du temps de Jésus laissa ce témoignage. Sa censure est terrible. Le langage vigoureux de notre maître confirme cette appréciation. La seule expression courtoise qu'il adressa jamais à l'erreur fut « Arrière de moi, Satan !» Les paroles que prononçait Jésus lorsqu'il chassait les démons et guérissait les malades et les pécheurs prouvent de façon encore plus convaincante que sa réprobation était acérée et mordante et montre la nécessité d'un langage aussi énergique. Renoncer à l'erreur, c'est priver le sens matériel de ses fausses prétentions. La prière à haute voix fait impression. Elle donne à la pensée une solennité et une élévation momentanée. Mais produit-elle quelques bienfaits durables? En examinant à fond la question, nous voyons qu'un zèle sans intelligence occasionne une réaction défavorable à la croissance spirituelle, à la résolution pondérée et à la saine perception de ce que Dieu requiert de nous. Les motifs de la prière verbale peuvent comporter un trop grand amour de l'approbation pour susciter ou encourager un sentiment chrétien. C'est la sensation physique, non l'âme, qui produit l'extase et l'émotion matérielle. Si le sens spirituel guidait toujours les hommes, des moments d'extase, il résulterait une expérience plus élevée et une vie meilleure, avec plus de pureté et une abnégation de soi plus sincère. Jamais l'expression satisfaite de sentiments fervents ne fait un chrétien. Dieu n'est pas influencé par l'homme, l'oreille divine n'est pas un nerf auditif. Elle est l'entendement qui entend tout et sait tout, qui connaît toujours chaque besoin de l'homme et y pourvoira. Le danger que peut présenter la prière est de nous induire en tentation. Par elle, nous pouvons devenir des hypocrites involontaires, exprimer des désirs qui ne sont pas réels, et nous consoler au milieu du péché en nous rappelant que nous avons prié à cet égard ou que nous avons l'intention de demander pardon dans un jour à venir. L'hypocrisie est funeste à la religion. Une prière verbeuse peut procurer au pécheur une impression apaisante de propre justification, bien qu'elle fasse de lui un hypocrite.